Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Ce que les attentats font aux sociétés. Bonjour à tous et toutes. Si la sociologie du terrorisme est désormais bien documentée, la sociologie des attentats l'est moins. Qu'est-ce que la terreur fait aux sociétés et aux individus? Au-delà de la peur, elle active une palette de réactions. Un choc, une douleur, une impression subite de fragilité de l'existence, ou ce que j'ai pu appeler de mon côté une intranquillité. La terreur produit des émotions collectives, le besoin de se retrouver, de refaire société, de donner à voir la nation, l'union sacrée et la résilience. Parfois aussi la colère et l'envie de rendre la violence subie. La terreur produit enfin de la sidération, un arrêt subit de la conscience et une suspension des sens. Si le terrorisme met à l'épreuve les sociétés, c'est précisément parce qu'il les oblige à se confronter à la violence et à survivre malgré la violence. Face à cette violence, les individus et les groupes déploient des séries de gestes et de discours qui entendent la conjurer et lui donner une intelligibilité. Il s'agira par exemple pour les journalistes de parvenir à inscrire un attentat dans un ensemble de précédents et de savoir jusqu'où montrer la souffrance. Il s'agira pour les gens ordinaires de mettre en mots l'empathie ou le trouble qu'ils ressentent et d'adresser symboliquement leurs paroles aux victimes, à des institutions, à des pays. Mais si après l'irruption de la violence, les gouvernants construisent leur réponse politique au niveau national, il n'est pas certain que la nation soit exactement l'échelon auquel les attentats sont vécus intimement. L'appartenance nationale n'entre pas nécessairement en ligne de compte pour se sentir touché ou au contraire se sentir indifférent à un attentat. D'autres appartenances, d'autres proximités, d'autres relations peuvent déterminer une réaction émotionnelle et une lecture politique des attentats. C'est ce jeu des appartenances que nous allons explorer aujourd'hui en compagnie de Jérôme Truc qui a travaillé sur les attentats du 11 septembre 2001, de Madrid en 2004 et de Londres en 2005. Bonjour Jérôme Truc.
Bonjour.
Alors Jérôme Truc, vous êtes sociologue, enseignant à l'ENS Cachan, Normale Sup, et chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique. Vous venez de publier un livre qui, justement, entreprend de faire une sociologie inédite des attentats, livre qui s'intitule « Sidération, une sociologie des attentats », livre qui est paru au PUF au début de cette année, donc début 2016. Je voudrais qu'on commence, pour qu'on comprenne un peu comment on fait de la recherche sur un objet délicat, difficile. Je voudrais qu'on dise un mot de vos sources, parce que vous avez utilisé des sources assez originales. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Oui, l'idée de départ, en fait, c'était d'aller voir ce que les gens écrivent en réaction des attentats, sachant qu'on voit fleurir, dans ces circonstances-là, des appels à messages. On sait que des journaux donc publient des appels à messages, disent « écrivez-nous ce que vous ressentez, vos messages pour les victimes, nous les relayerons ». On sait aussi que les ambassades et institutions reçoivent spontanément. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit que les gens utilisent leurs comptes sur les réseaux sociaux pour directement exprimer ce qu'ils ressentent, adresser leur message de solidarité aux victimes. Bon, et donc l'idée de départ, c'est de partir de ça, de tout ce que les gens écrivent, disent lorsqu'ils sont confrontés à un attentat. Et donc ça se compte en fait, c'est innombrable, c'est des dizaines, c'est des centaines, c'est des milliers de messages. Ces messages peuvent être évidemment parfois très très pauvres, très répétitifs. C'est des formules, ça se résume à non au terrorisme, oui à la paix, reposer en paix. Nous sommes de tout cœur avec vous, mais c'est de l'agrégation de tous ces messages-là, en fait, quand on les prend à très grande échelle, qu'on peut voir se dégager des ressorts affectifs, des schémas récurrents, et ce sont donc ces ressorts affectifs qu'on retrouve dans les réactions à plusieurs attentats que j'analyse dans mon livre.
Et alors, y compris, ce qui est intéressant, c'est que c'est une parole, au fond, profane, une parole des gens ordinaires, qu'on n'a pas l'habitude de voir s'exprimer, parce qu'on a plutôt tendance à travailler sur des sources journalistiques ou étatiques, donc là, il y avait un intérêt quand même à dire qu'est-ce que les gens ordinaires, entre guillemets, pense, c'était ça
oui,
aussi.
Voilà, c'est l'un des intérêts aussi du livre. J'ai voulu beaucoup citer de ces messages dans le livre pour les donner à lire, donner à voir, parce que ce dont on se rend compte, c'est que les institutions qui se retrouvent parfois submergées face à ces messages-là ne savent pas quoi en faire. Certains des fonds que j'ai utilisés ont été oubliés dans des placards pendant des années. Et donc voilà, c'est des messages qui en fait n'atteignent jamais leur destinataire, les victimes, ne sont finalement pas destinées à être lues. Et donc je trouvais intéressant d'aller voir s'il y avait quelque chose à en faire et de montrer justement à travers ça l'écart qu'il peut y avoir entre les discours médiatiques publics sur l'événement, ceux des leaders politiques, ceux des journalistes, ceux des intellectuels, et les discours, ce qu'en disent les simples citoyens à leur échelle. Et sachant, du coup, et c'est ce qui structure mon livre, hein, qu'évidemment, ce que disent les citoyens est en large partie tributaire de ces éléments de langage, des symboles, des discours qui circulent dans l'espace médiatique, mais que l'un ne se résume pas à l'autre. Et donc c'est pour ça aussi que du coup, partant de cette intention de départ-là, je me suis retrouvé aussi à faire un travail d'archives sur les archives médiatiques pour analyser ce que j'appelle les cadrages des attentats, les cadrages dans les médiatiques, donc de manière à montrer l'écart.
Voilà. Voudrais qu'on dise un mot de ça, oui, c'est-à-dire il y a l'écart, mais qu'est-ce qu'un cadrage? Parce que c'est un concept qui est très utilisé en sociologie, qui est peut-être pas très connu du grand public, et donc pour mesurer cet écart, il faudrait qu'on voit ce qu'on appelle un cadrage.
En fait, l'idée de cadrage, on la retrouve beaucoup dans les études en sciences de l'information et de la communication. En fait, elle vient initialement d'un sociologue interactionniste qui est Erwin Goffman, qui explique que dans la réalité, que lorsque nous vivons des situations, ces situations ont besoin d'être cadrées, c'est-à-dire d'être définies, de manière à ce qu'on puisse comprendre quel est leur sens, ce qui s'y passe. Et donc, on se retrouve confronté, en fait, au quotidien, toujours à un impératif de définition de la situation, qui fait qu'on a besoin de donner un cadre pour dire qu'est-ce qui se passe ici. Bon. Et au quotidien, on n'est pas conscient de ce travail de cadrage de la situation, parce qu'on a tout plein de dispositifs, de ressources, qui font que le cadre est déjà donné dès le départ. Quand on rentre dans une université, on sait qu'on va assister à un cours, et que la personne qui nous parle en face est un professeur, il n'y a pas besoin de recadrer les choses. Mais quand un attentat survient, tout d'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on l'a vu très nettement au moment du 11 septembre, par exemple, pour ceux qui se souviennent de l'avoir vécu en direct, et les archives télévisuelles le montre très bien, les journalistes eux-mêmes ne comprennent pas. Est-ce que c'est une explosion dans la tour? Est-ce que c'est un avion, un petit avion, un grand avion? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une attaque? De quelle nature? Et donc là, on voit bien le cadrage qui se fait en cours de route. Et du coup, après, une fois qu'on sait que c'est une attaque, des avions, est-ce que c'est un acte de guerre? Est-ce que c'est simplement un crime? Comment qualifier l'événement?
Et alors du coup, l'idée, c'est que les messages que vous trouvez vous permettent de travailler sur donc l'écart entre une perception profane, entre guillemets, et ce cadrage journalistique en particulier, ou le cadrage politique.
Voilà, c'est-à-dire que tant qu'on en reste à un niveau qui est celui des discours médiatiques, on va dire, donc des intellectuels, etc., on a, si vous voulez, des cadrages formulés par exemple par les leaders politiques, qui sont les premiers à réagir, pour dire par exemple, quand la France est attaquée en janvier sous le nom de l'attaque contre Charlie Hebdo, pour dire ce n'est pas une attaque uniquement contre des journalistes, mais contre toute la République. Bon, on a là-dessus donc des discours qui peuvent être portés par des intellectuels, par des journalistes qui se positionnent par rapport à ça, mais par rapport à ce discours-là, qui est celui dont on parle le plus, on a aussi les réactions des profanes qui eux-mêmes, à leur échelle, le vivent de cette manière-là, et donc surenchérit sur ce mode-là, ou le vivent autrement et tiennent à le dire aussi. Voilà. Mmh. Et expliquent que du coup, ce qui font qu'eux-mêmes se sentent concernés et touchés, peut avoir trait à tout à fait autre chose que ce qui est mis en avant dans le cadrage dominant de l'événement.
Alors on le verra tout à l'heure, on reviendra sur cette parole ordinaire, mais restons sur la question du cadrage journalistique, en particulier sur les attentats du 11 septembre, donc le 11 septembre 2001, sur lequel vous avez travaillé, Jérôme Truc, et vous nous montrez dans votre ouvrage que, au fond, la grande ligne de lecture, le grand cadre de lecture de ces attentats aux États-Unis, c'est la réactivation du précédent de Pearl Harbor en 1941. C'est ça qui se joue à ce moment. Voilà.
Oui, le 11 septembre 2001, aux États-Unis, était qualifié de nouveau Pearl Harbor. Il a été immédiatement, enfin les archives de presse le montrent, parce que les unes de journaux rappellent, par exemple, c'est infamie, donc rappellent un jour d'infamie, rappellent les termes employés à l'époque de Pearl Harbor. Mais là encore, vraiment, les journalistes font le même écho à ce qui est l'expérience du citoyen américain ordinaire, parce que des témoignages de gens à Manhattan interrogés dans le cours de la journée disent voilà, c'est la guerre, c'est Pearl Harbor, c'est à nouveau Pearl Harbor, on est bombardé, on est attaqué. Il y a des raisons objectives en fait qui expliquent que les choses étaient vécues comme ça par beaucoup de gens, et à la fois donc par des leaders politiques et par des simples citoyens. C'est simplement le fait que en 2001, c'était l'année du 60e anniversaire de Pearl Harbor, et que donc les États-Unis étaient baignés par tout un spectacle commémoratif qui était très prégnant à cette époque-là.
Il faut
se souvenir
d'ailleurs.
Voilà, il y a le grand film de Walt Disney, Pearl Harbor, qui est sorti dans l'été, qui est le blockbuster à l'époque du 11 septembre dans les salles. Il y a le livre de James Bradley, Flags of Our Fathers, qui deviendra ensuite le film de Clint Eastwood, qui est en tête des ventes dans les librairies américaines depuis plusieurs semaines. Donc les Américains sont très soumis aux images, au rappel des images de Pearl Harbor, et donc effectivement le fait que dans la presse américaine en particulier, comme l'a bien montré l'historien de la photographie Clément Chéroux, dans son ouvrage diplopique que je reprends, le fait que les images de Manhattan sous la fumée aient été, après l'effondrement des tours, aient été particulièrement mises en avant, l'image de l'explosion aussi des tours au moment de la, au moment du crash du second avion vécu en direct. Donc que ces images soient particulièrement mises en avant, s'explique aussi par le fait qu'elles étaient très propices à rappeler les images d'archives, notamment remises au goût du jour par Walt Disney avec le film Pearl Harbor de ce précédent, donc de 41.
Ce qui est intéressant, c'est que au fond, l'idée d'une guerre et d'un bombardement arrive tout de suite et donc va déterminer ce cadrage. Et ce n'est pas ce qu'on a pu ensuite a posteriori concevoir comme un storytelling très élaboré pour justifier les bombardements, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même une perception très forte. Alors après, on peut construire des choses, mais il y a d'abord une perception d'une attaque de guerre, enfin d'un acte de guerre.
Voilà, c'est de ce point de vue-là, ce que j'explique dans l'avant-propos de mon livre, de ce point de vue-là, ce que les Français ont vécu avec le 13 novembre est très proche de ce qu'ont vécu les Américains le 11 septembre, toute proportion gardée. C'est-à-dire le fait que tout de suite on nous dise ce sont des scènes de guerre, c'est la guerre, c'est une horreur, comme le dit François Hollande après le 13 novembre. Ça rejoint directement la façon dont les Américains ont vécu le 11 septembre. Et le storytelling, s'il fonctionne, c'est aussi parce qu'il fait écho directement à l'expérience qu'ont une majorité de citoyens de l'événement. Bon, et il est vrai qu'ensuite, le fait qu'on ait donc ce cadrage du 11 septembre comme nouveau Pearl Harbor détermine le fait qu'on vit l'événement comme étant avant toute chose une attaque infâme d'une nation. Ça concerne avant tout les États-Unis. C'est une attaque contre l'État-nation américain, une agression de son territoire, et c'est pas un événement mondial, etc. Donc ça appelle des représailles militaires, une riposte. Donc, c'est un renvoi directement aussi à la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis comme défenseurs du monde libre, donc c'est le discours de George W. Bush. Pourquoi s'en prendre-t-il à nous? Pourquoi nous haïssent-ils tant? Mais parce que nous sommes le phare de la liberté, nous représentons la liberté dans le monde. Donc nous avons défendu le monde libre en 45, enfin dans les années pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons à nouveau le faire. Désormais, nous sommes appelés à le faire, etc. Donc ça détermine tout ça ensuite. Bon, et il est vrai que on peut aussi a posteriori dire oui, mais alors en fait avoir une lecture vraiment rétrospective de tout ça, qui est la lecture finalement complotiste, consistant à dire non pas simplement que le cadrage en lui-même a été conçu pour justifier les guerres qu'on voulait mener, mais que dans ces cas-là, du coup, on a en fait l'État américain lui-même, l'administration politique américaine elle-même a fomenté l'attentat pour pouvoir justifier ces guerres, en fait.
Oui, bien sûr, une lecture qui a eu un succès assez fort encore aujourd'hui.
Bien sûr.
Alors, à côté de ce cadrage, il y a quand même ce que vous appelez un contre-cadrage en France, en particulier, Jérôme Truc, un contre-cadrage de ce 11 septembre, qui est un cadrage plus ambivalent dans les médias français, sur le mode, au fond. Alors, non pas les Américains ont ce qu'ils méritent, c'est pas aussi simple, mais les Américains sont aussi porteurs de violence à travers le monde, que ce soit au Vietnam ou au Kosovo. Qu'est-ce qui se joue dans ce cadrage français? C'est quelque chose de l'ordre de l'anti-américanisme, ou ce serait un peu trop réducteur?
Alors,
de le voir comme ça?
En France, on a effectivement vécu les choses de manière très auto-centrée, avec tout ce débat autour du rapport ambivalent des Français aux Américains. Et donc le débat autour de la solidarité avec l'allié américain qui nous a libérés pendant la Seconde Guerre mondiale, et en même temps cette question de l'anti-américanisme, etc. En fait, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que ça va au-delà. Ce contre-cadrage, il n'est pas que français, il est européen. Ce qui est assez symptomatique, par exemple, de ce contre-cadrage, c'est dans les conclusions du Conseil européen extraordinaire qui se tient 10 jours après le 11 septembre, le terme de guerre n'est jamais employé une seule fois. Hein. Autant George W. Bush n'a vraiment aucune réticence à dire que les États-Unis sont agressés, qu'on leur a déclaré la guerre, qu'ils vont riposter, autant on a, de la part de l'Union européenne dans son ensemble, la volonté de dire qu'il y a un acte là qui est mondial, qui sont des crimes atroces contre les sociétés plurielles, pluralistes, ouvertes, tolérantes, etc., qui appellent effectivement une réponse, mais sous l'égide de l'ONU, dans le respect du droit international. Donc il y a directement ce que j'appelle du coup la proposition d'un contre-cadrage cosmopolite, hein, consistant à dire que le 11 septembre est un événement mondial, qu'il met en danger l'ensemble du monde, de l'humanité. Et ce qui est très prégnant, hein, dans les réactions des citoyens, donc des citoyens ordinaires en Europe, français mais pas seulement, parce que par exemple les Allemands sont beaucoup plus nombreux à manifester après le 11 septembre que les Français à ce sujet-là, c'est la peur d'une guerre mondiale, tout simplement. C'est la peur que, vu la manière dont les événements sont cadrés aux États-Unis et la manière dont commence à y répondre l'administration américaine de George W. Bush, le risque est que voilà, la réponse soit disproportionnée, que les États-Unis par exemple larguent une bombe atomique, on ne sait trop où, proche au Moyen-Orient, et que donc derrière ce soit une apocalypse nucléaire qui soit déclenchée dans le monde. Et cette peur-là, bon voilà, est assez prégnante, s'exprime assez nettement à différents niveaux, non seulement en France donc et en Europe, et constitue donc ce contre-cadrage européen.
Le droit d'un côté côté et la force de l'autre. Je voudrais qu'on écoute une chanson qui avait eu un succès assez important à l'époque, une chanson de Renaud et d'Axel Rel, un duo qui s'appelle Manhattan Kaboul.
Quasiment new-yorkais, dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts vont raser mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Solon gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Vite imposé l'islam des tyrans. Cela n'oublie jamais ni le courant. Suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les gardes civilisations,
les armes, les drapeaux, les patries, les nations
font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
La valeur de l'homme, ce que les attentats font aux sociétés. Nous sommes en compagnie de Jérôme Truc. On vient d'écouter une chanson de Renaud et d'Axel Red qui s'appelle Manhattan Kaboul. On peut en dire un mot peut-être, Jérôme Truc?
Oui, on peut en dire un mot parce que c'est vrai que cette chanson capte très bien ce que j'explique, donc ce que je présente dans mon livre comme étant ce contre-cadrage européen qui consiste à adopter un point de vue cosmopolite sur le 11 septembre, le présenter comme un événement mondial. On voit bien comment cette chanson, donc, a écrit Renaud, qui a eu un grand succès à l'époque, donc qui captait aussi pas mal la manière dont les, voilà, la société ont vécu ces événements, la société française a vécu ces événement. Renaud met en équivalence, voilà, à la fois, on est dans la compassion avec une victime du 11 septembre et en même temps dans la compassion avec une victime des bombardements américains en Afghanistan. Et il est symptomatique que la victime du 11 septembre, elle est pas américaine, elle est portoricaine. Ouais. Donc on met l'accent sur la dimension cosmopolite de New York. C'est Manhattan Kaboul, la chanson. C'est pas États-Unis, Afghanistan. Ouais. Donc, et ça, j'explique bien dans mon livre que voilà, le 11 septembre, les Européens ont eu tendance à se centrer sur Manhattan, les tours du World Trade Center, alors qu'il y a toute une mythologie de l'événement qui s'est constituée aux États-Unis, du 11 septembre comme agression de la nation, et donc où il y a les tours de Manhattan, mais il y a aussi le Pentagone, il y a aussi le crash de Shanksville en Pennsylvanie qu'on a complètement oublié en Europe, mais qui est un événement tout à fait mythique avec les héros du vol 93 qui se sont mutinés pour empêcher l'attentat aux États-Unis. Et donc, ce qui fait que voilà, la conception du 11 septembre, même aujourd'hui, 15 ans après, est très différente entre ce qu'il en reste aux États-Unis et ce qu'il en reste en Europe. Et donc, la chanson de Manhattan Kaboom, elle saisit bien ça, elle saisit bien cette ambivalence de, on est dans la compassion avec les deux, mais on est solidaire des Américains, mais en même temps, on le vit pas comme étant une guerre à sens unique et qui appellerait une riposte qui se ferait en dehors du droit international. Voilà, il faut être soucieux du monde. Et la dernière phrase là qu'on a entendue, où Axel Red dit voilà que les guerres de civilisation, les nations, les religions feront toujours de nous de la chair à canon, renvoie bien à ce qui est cette ligne de base finalement de mon ouvrage, hein, qui est l'attachement à la valeur humaine, la valeur de l'homme. Ça renvoie bien en plus au nom de l'émission, hein, comme étant le principe d'équivalence entre les réactions à tous nos attentats. Est-ce qu'on retrouve du coup aussi dans la formule ce sont vos guerres et nos morts, voilà. Vous faites des guerres, vous faites des attentats, et à la fin sont toujours des êtres humains issus du peuple qui en pâtissent, qui meurt, formule Vogar nos morts qu'on retrouve aujourd'hui, là, depuis ce week-end, écrit en grandes lettres taguées sur la statue de la République, et qui était aussi l'une des formules les plus, qu'on retrouvait le plus dans les manifestations post 11 mars 2004, après l'attentat de Madrid.
Alors, on évoquait justement le rassemblement, là, en ce moment, à la place de la République, et il se trouve que, autre forme de rassemblement, après les attentats, Jérôme Truc, il y a des rassemblements imposants qui sont, alors, il faudrait qu'on arrive à les qualifier ensemble, qui sont peut-être des rituels de deuil, qui sont des cérémonies. Comment on peut lire ces grands rassemblements post-attentat, type 11 janvier?
J'explique que de ce point de vue-là, il est très important de poser une distinction, à mon sens, entre ce qui relève de rassemblements, alors qu'on peut qualifier de spontanés, citoyens, et ce qui relève de manifestations au sens politique du terme, en fait. Parce qu'on voit bien, après les attentats de janvier, par exemple, 2015, hein, ils sont récents, on voit bien comment on a eu, dès le soir même de l'attaque contre Charlie Hebdo, des gens qui accourent à République, qui se rassemblent, etc., qui ressentent donc un besoin. Là, on est dans les rituels de deuil. Besoin de se rassembler, de se recueillir, d'être ensemble, d'allumer des bougies en silence, de déposer quelque chose en souvenir des victimes, une page de Charlie Hebdo, etc. Et quelque chose qui est très différent de la marche du 11 janvier, où là, on a un appel à manifester avec un mot d'ordre. Donc, ça procède d'un appel à manifester, c'est lancé par des organisations, c'est relayé par d'autres organisations, et on a bien vu d'ailleurs à l'époque le débat entre ceux qui disaient, bon, moi j'étais là le 7 janvier au soir, mais je ne participerai pas au 11 janvier, ou inversement, ceux qui étaient là le 11 janvier, qui n'étaient pas là le 7 janvier au soir. Bon, pas exactement la même chose. Et donc, après les attentats, c'est pas automatique, c'est pas systématique, ça dépend des contextes aussi. On peut avoir l'un comme l'autre.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on en vienne, Jérôme Truc, à ce qui constitue le cœur de votre analyse, à savoir que la proximité affective avec un attentat n'a pas nécessairement à voir avec l'appartenance nationale, qui est notre premier réflexe de lecture, et vous écrivez « Un étranger peut s'être senti Charlie ». Alors, quel est le mécanisme? Quel est le mécanisme de cette proximité affective avec un attentat, ou les mécanismes?
En fait, ce que j'essaie d'expliquer, donc voilà, c'est que le discours le plus évident, en fait, sur les réactions d'attentats, c'est que un pays est frappé et que tous les citoyens de ce pays, en tant qu'ils en sont, donc voilà, qu'ils y appartiennent, se sentent eux-mêmes agressés. Voilà, il y a un attentat a lieu en France, on s'attaque à mon pays, je suis français, je me sens concerné en tant que français. Et on se rend bien compte, dans les faits, que tous les Français se sentent pas concernés par une attaque en France parce qu'ils sont français, que certains sont Charlie, d'autres ne le sont pas, les gens se sentent plus ou moins concernés avec plus ou moins d'intensité. Ça paraît déjà évident quand tout simplement on dit que voilà, certains connaissaient des victimes, voilà, et étaient des proches à plus ou moins, à des degrés plus ou moins de proximité, plus ou moins éloignés, voilà, j'ai un ami qui est un ami qui, bon voilà, qui fait que du coup on est plus marqué par un attentat que par un autre. Bon. Et en fait, voilà, si on regarde ce que les gens écrivent aux victimes, on se rend compte que ce qui est en jeu, c'est pas tant un sentiment d'appartenance qu'un sentiment avant tout de proximité, donc justement. Et même donc pour ceux qui connaissent pas de victimes, ce qui fait qu'ils se sentent proches des victimes relève de différents ressorts affectifs, parmi lesquels, du coup, on peut avoir le sentiment de commune appartenance à la même nation, mais aussi tout plein d'autres sentiments de commune appartenance.
Alors, par exemple.
Alors, par exemple, à la même classe sociale, par exemple, à la même communauté religieuse, à la même communauté sportive. Prendre un exemple tout bête, hein, mais les journalistes se sont sentis immédiatement concernés par ce qui se passait en janvier, l'attaque d'une rédaction d'un journal, c'est tout à fait inédit, et si l'événement a pris l'ampleur qu'il a pris, c'est aussi parce qu'on a une réaction suramplifiée de ceux dont le métier était de rendre compte de l'événement, et qui se sentaient pour la première fois vraiment concernés, peut-être à la première personne, plus que jamais. Bon. De la même manière que le marathon de Boston, l'attentat de Boston, les gens qui sont avant tout concernés par cet attentat-là sont des marathoniens. En Europe, la seule minute de silence qui a lieu une semaine après, elle a lieu au départ du marathon de Londres, par exemple. exemple. Bon. De la même manière qu'on a des comités de circonstances qui font que quand vous avez des bombes qui explosent dans des RER, des métros, des bus à Madrid, à Londres, et ben les gens qui vivent dans eux-mêmes dans des villes et prennent tous les matins les transports en commun pour aller travailler, les gens qui prennent le métro, le RER, alors évidemment à Madrid ou à Londres quand ces villes sont frappées, mais aussi du coup à Paris ou à Berlin, ont peut-être un peu plus de raisons de se sentir concernés par ces événements que des gens qui vont au travail en voiture ou qui vivent en zone rurale sans avoir à prendre pour aller travailler le train ou le métro.
Il peut y avoir une communauté de destin ou une communauté de situation transnationale qui est liée effectivement à au fait qu'on a le même parcours, qu'on emprunte les transports, qu'on appartient à la même classe sociale de banlieusards ou de la classe moyenne. Ça, c'est quand même assez étonnant et ça crée des contacts finalement voilà entre des individus et de la compassion de manière assez inattendue. C'est ce que vous observez.
On a des messages, par exemple, pour revenir sur l'exemple des communautés d'usagers de transport en commun. Évidemment, on se sent pas au quotidien appartenir à cette communauté-là. On n'a pas l'impression d'être solidaire de son voisin de métro et a fortiori d'un voisin de métro, enfin de quelqu'un qui prendrait le métro dans une autre ville que celle où on réside. Est-ce que dont les messages témoignent, c'est justement du fait que sous le coup de l'émotion face à l'événement, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, je me sens quand même moins indifférent à cet événement-là qu'à un autre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça me touche tant? Et c'est dans ces moments-là que du coup ce genre de communauté prenne sens, de la même manière que des Français ont pu se dire plus concernés par l'attentat de Madrid que par celui du 11 septembre. Et selon eux, ça tenait au fait que bah là, ils se rendaient compte que le fait de se sentir européen, d'être européen, tout d'un coup avait un sens. Bon, alors qu'au quotidien, on sait bien qu'il y en a pour très peu de personnes. Bon. Donc ce sont ces sentiments-là, ces ressorts là qui font que chacun a une expérience de l'événement personnel. On peut se sentir concerné, pour reprendre l'exemple de Charlie Hebdo, évidemment par l'attentat en tant qu'on est français, mais aussi peut-être un peu plus en tant qu'on connaît Charlie Hebdo, qu'on lit le journal. Voilà. Mmh. Et quand je dis qu'effectivement un étranger peut être senti Charlie, en fait je dis qu'il a pu s'être senti Charlie pour les mêmes raisons qu'un français. Et donc sans que cette raison soit liée au fait que l'un est étranger et l'autre français. Le fait, voilà, par exemple, vous avez des messages sur les réseaux sociaux qui expliquaient que voilà, des Espagnols qui expliquaient qu'ils se sentaient Charlie parce que ça leur rappelait leurs études en France, où voilà, ils lisaient ça étant étudiants et que pour eux c'était une partie de leur vie, etc.
Je voudrais que brièvement, parce que l'émission va toucher à sa fin, qu'on dise un mot d'une compassion très cosmopolite. Je pensais à un message que vous avez trouvé où un Espagnol écrit, il signe son message en disant un être humain, un citoyen, un Européen, un Espagnol, quelqu'un de Guadalajara. On joue sur les multiples appartenances pour se sentir une proximité.
Exactement, la proximité peut être d'autant plus forte qu'on a différentes appartenances comme ça qui s'accumulent et qui font qu'on se sent pris par des élans de solidarité collective, on se sent pris à l'échelle de communauté donc qui font sens dans ces contextes-là. En même temps, l'agrégation de différents liens sociaux, de différents sentiments de communauté font qu'on peut avoir un rapport très personnel à l'événement, ce qui finalement se traduit par le fait qu'on peut y réagir à la première personne du singulier en disant « je suis Charlie » ou « je suis Paris » et en même temps ce que les gens vont mettre en avant pour exprimer d'où leur vient leur émotion, renvoie aussi à l'expérience qu'ils ont de l'événement. C'est-à-dire que face au Bataclan, j'ai aussi pu voir des messages disant tout simplement « je suis un être humain ». Et on ne sait pas si la personne qui dit ça est elle-même parisienne, française ou étrangère, où elle vit. Simplement, ce qui lui semble pertinent dans ce contexte-là, ce qui fait qu'elle se sent émue, c'est simplement le fait d'être un être humain. C'est aussi évidemment une manière de dire que tous les autres devraient se sentir concernés simplement par l'événement en tant qu'être humain.
Et alors peut-être une dernière question, une avant-dernière question, très peu de messages haineux dans le corpus que vous observez. Il n'y a pas ce phénomène des haters qu'on trouve sur Internet, en tout cas dans le corpus que vous avez.
Voilà, c'est un effet aussi propre au corpus que j'ai voulu montrer dans mon travail aussi, c'est que quand on va voir quand même ces dizaines de milliers de messages adressés aux victimes, on voit que des gens qui sont quand même profondément concernés par l'événement, qui ressentent le besoin d'écrire quelque chose, qui traduisent aussi des fois le fait qu'ils disent voilà, j'arrive pas à dormir, je suis préoccupé, faut que je m'en libère, donc voilà, ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont dans la haine vis-à-vis d'ennemis ou de ceux qui appartiennent, dont ceux qui seraient de la communauté dont se revendiqueraient les auteurs des actes terroristes. Et donc voilà, ça veut pas dire que cette réaction haineuse n'existe pas. Ça veut dire en tout cas que ce sont des modes de réaction à l'événement qui sont différentes.
Une dernière question plus personnelle, où étiez-vous, Jérôme Truc, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo ?
J'étais en classe avec, à l'époque j'enseignais au lycée, donc j'étais en classe avec mes lycéens. Ouais. Qui m'ont appris la nouvelle en rentrant en cours.
Ils avaient eu ça sur leur téléphone portable.
Voilà, moi j'ai pas de smartphone, mais ils en avaient. Ils m'ont dit monsieur, il y a eu un attentat, Charlie Hebdo, il y a des morts. Enfin, il y a eu une fusillade. Il y a eu une fusillade, Charlie Hebdo, il y a des morts. Ils me parlaient pas d'attentat à ce moment-là.
Voilà, donc on sait tous, nous étions effectivement ce jour-là. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Merci beaucoup. Cette émission s'achève. Je tiens donc à vous remercier vraiment chaleureusement, Jérôme Truc, pour votre présence. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Sidération au pluriel, Sidération, une sociologie des des attentats. C'est paru au PUF, Presse universitaire de France, dans la collection Le Lien social en 2016. Merci à Emmanuel Demisco à la technique et à dans 15 jours pour la prochaine émission.